rentrer du Mbujima au Kasai Oriental. J'ai refusé totalement ce qui est...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le rapport d'audit sur l'aide européenne à la RDC, estimé à près de 2 millions d'euros de 2003 à 2011, a été présenté à Bruxelles le mardi dernier. Ce rapport conclut que moins de la moitié des programmes examinés ont atteint les résultats escomptés et leur durabilité ne sera pas assurée. En réaction, les gouvernements congolais estiment que s'il y a mauvaise utilisation des financements de l'Union européenne, elle n'incombe pas notamment aux autorités congolaises. Comment commentez-vous cette actualité? Vous qui avez une lecture objective et un regard dépassionné sur cette thématique, composez les 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net ou bien nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. La réalisation de cette émission est assurée par cette dynamique équipe de production composée de Piro et Lameji, Nadine Poula et Jean-Noël Mokondo. Nikongaka supervise bien entendu ces programmes présentés et coordonnés par J.R. Lungemo. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungemo.
Nous avons en ligne Samri Blaise, qui est professeur dans plusieurs instituts supérieurs et universités de la RDC. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des relations économiques internationales. Vous avez suivi, comme nous, l'actualité. D'entrée de jeu, que peut nous inspirer un rapport d'audit, par exemple, de Cour de comptes de l'Union européenne?
Merci beaucoup. La Cour de comptes... L'Union européenne est établie à Luxembourg. Elle fait les audits non pas seulement au niveau de la coopération, mais aussi même au niveau des gestions internes, même des instruments. C'est un instrument qui est institué pour pouvoir finalement corriger, veiller à ce que l'Union européenne se conforme à ses instructions, et qu'elle est, en fait, si vous voulez, quelqu'un qui a un nez, qui sait juger qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est une institution très, très crédible qui est installée donc à Luxembourg, et non même pas à Bruxelles ou ailleurs, mais c'est à Luxembourg. Donc, qu'est-ce que ça nous inspire? C'est ça la question. Eh bien, ça nous interpelle quand même. Y a-t-il du faux dans tout ce qu'ils ont dit? Je pense que non. Et donc, c'est en fait une manière de nous poser nous-mêmes la question de savoir... si ce que la Cour a en fait relevé comme, si vous voulez, faille dans la coopération, peut finalement nous donner un autre schéma de réflexion pour pouvoir finalement corriger ce qui a été relevé. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quand nous lisons ces rapports, il est clairement dit que moins de la moitié des programmes examinés ont atteint les résultats escomptés et leur durabilité ne sera pas assurée. Est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent en ce moment par rapport à cette conclusion?
Merci bien. En fait, le rapport a été établi sur base d'une visite qui a été effectuée ici au Congo entre mai et décembre 2012. Et cette visite a eu lieu à Kinshasa, au Bas-Congo, au sud Kivu et au nord Kivu, donc trois provinces si vous voulez, et que les auditeurs avaient eu contact avec pratiquement les autorités compétentes, mais y compris aussi la société civile et même certains bénéficiaires donc de cette coopération-là. Donc, ils étaient sur le terrain pratiquement pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas dire, mais non, écoutez, ils n'ont rien fait. Non, ils étaient sur le terrain, ils ont visité toutes ces provinces. Donc, c'est pour vous dire que le rapport est quand même consistant. Qu'est-ce qu'ils ont en fait examiné? Ils ont examiné d'abord leur appui aux élections, leur appui à la réforme sécuritaire, justice et police, leur appui à la gestion financière, leur appui à la réforme institutionnelle et décentralisation. Ils ont aussi analysé donc les aides au niveau des infrastructures, des transports, de la santé et de l'aménagement des ressources forestières. Le tableau qui est dans ce rapport, vous pouvez peut-être lire où vous l'avez, il est à l'annexe numéro 1. En fait, il donne des indicateurs. Il donne bien les indicateurs. Donc, si je peux lire rapidement, peut-être mes amis comprendront, qu'est-ce qu'ils ont constaté. Ils ont en fait constaté, ils ont donné les notes A, B, C, D. L'autre, la note S, C ou D, donc c'est que ce programme vraiment n'est pas soutenable. Le résultat est, disons-le, pas tout à fait négatif, mais il est plus ou moins quand même...
Mitigé.
Oui. Alors, ils ont, en fait, au niveau de l'appui à la formation de l'unité de police, le résultat c'est B et la durabilité D. Donc, il y a la note ABCD. Programme d'appui à la réforme de la police nationale, durabilité C. Support à la paix, le service, à la stabilité à l'est du pays, pas de durabilité non plus. Restauration de la justice à l'est de la République démocratique du Congo, durabilité D. Programme d'appui à la gouvernance, durabilité C. Appui au processus électoral, C aussi. Appui à la CNI, C. Et programme d'appui au cycle électoral, comme je viens de vous dire, toujours C. Ils ont aussi examiné le programme d'appui à la gouvernance, volet ressources naturelles, pas de durabilité. Programme d'appui à la modélisation des finances, durabilité B. Voilà dans l'ensemble ce qu'ils ont fait.
Oui.
Et ils ont en fait conclu pour dire que les 1 milliard 868 millions, dont le montant c'est 1 milliard 868 millions d'euros dépensés depuis 2003 jusqu'à 2013, a été ce montant, évidemment, n'a pas atteint les résultats escomptés. Voilà donc le résumé. Et ils se disent que les fautes ne reviennent pas nécessairement aux experts de l'Union européenne qui sont sur le terrain, dans le programme, mais aussi à l'État congolais qu'ils considèrent comme un État, si vous voulez, fragile. Le mot fragile est utilisé pour atténuer les choses, mais le concept, le vrai concept qui est utilisé, on dit les États en faillite. Après le conflit, il y a autant de critères pour déterminer la position de l'État. Nous sommes un État fragile. Et donc, après avoir examiné tout cela pendant la période que je viens de vous indiquer, donc la conclusion pourrait, l'aide de l'Union européenne n'a pas atteint ses résultats.
Voilà, alors, mais entre-temps, la réaction, donc en réaction, le gouvernement congolais estime que s'il y a mauvaise utilisation des financements de l'Union européenne, elle ne combe pas, notamment aux autorités congolaises. Et pour paraphraser le ministre de communication, de l'information et voie de communication, il y a qui dit ceci: l'implication des autorités légitimes de la RDC dans les processus d'initiation et de réalisation des différents projets de coopération à ce niveau est demeurée purement symbolique. Vous avez un commentaire par rapport à ça, professeur?
Oui, j'ai un commentaire. Hein. Depuis 2005, notre gouvernement a participé à la conférence de Paris. Et lors de cette conférence, un des principes, il y en a cinq, un des principes qui a été adopté était le principe de responsabilité mutuelle. Je le répète bien, responsabilité mutuelle. Il était question que les partenaires, c'est-à-dire les bénéficiaires de l'aide, et les donateurs de l'aide se mettent ensemble et acceptent en fait la responsabilité mutuelle dans la réussite ou dans l'échec des projets. C'est depuis 2005. Au Congo, nous avons une représentation de l'Union européenne, mais nous avons au niveau du ministère des Finances une cellule qui est installée dans le bâtiment des BGI, une cellule de coordination des aides de l'Union européenne, qui dépend du ministère des Finances, qui a des réunions régulières avec les autres ministères pour pouvoir évaluer, si vous voulez, les programmes d'appui au gouvernement. Donc nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas associés ni de loin ni de près. Le problème, c'est que nous devons nous poser des questions de savoir quel est le travail de cette finance et qui est là depuis des années. Vous pouvez vérifier, vous trouverez, ces bureaux sont là. Vous avez le grand bâtiment des DGI, ils se réunissent régulièrement. Ils se réunissent. Donc, est-ce que nous ne sommes pas concernés par La critique, oui, nous sommes quand même concernés, nous ne pouvons pas dire que nous ignorons totalement ce qu'ils font. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même peut-être une manière de relativiser les choses, c'est-à-dire que dès que les programmes sont décidés, eh bien, l'Union européenne vient avec, j'espère, s'installe et exécute ces programmes-là. L'argent, certes, n'entre pas directement dans les caisses du trésor public. L'argent est parfois dépensé en Europe et nous ne recevons finalement que les services qui sont fournis ou les travaux qui sont fournis sur le terrain. Là, c'est ça, en fait, le problème. Le deuxième, il faut aussi comprendre que l'aide dont on parle, c'est des FED, Fonds Européen de Développement, NEF et Fonds Européen de Développement 10. Eh bien, ces fonds, lorsqu'ils sont décidés, chaque pays participe donc à ce qu'on appelle la conférence à l'époque, c'était donc des ACP. Actuellement, donc, nous avons ces partenariats, nous y allons, nous discutons ensemble et on décide ensemble de l'enveloppe qui est une enveloppe commune et chacun de ces pays membres des ACP a alors sa part là-dedans et signe des accords de coopération avec l'Union européenne. Donc, nous sommes déjà à ce niveau-là impliqués par le fait que nous participons régulièrement depuis des années, finalement, à la coopération avec l'Union européenne et les États ACP. Là, nous ne pouvons pas dire que nous ignorons totalement. Ouais. Le problème qui se pose, c'est que les États membres de l'Union européenne qui financent le FED ont aussi leurs intérêts particuliers. Lorsqu'ils décident finalement de quel programme faut-il emprunter dans tel ou tel pays, en ce moment-là, vous avez un lobby très important qui agit au niveau de la Commission européenne avec les entreprises, avec les gouvernements. Chaque gouvernement, finalement, cherche à tirer les meilleurs profits de cette coopération-là. Surtout les pays qui financent le plus de FED, par exemple la France, l'Allemagne, qui donnent le plus, cherchent aussi à ce que les projets qu'ils appuient à travers l'Union européenne, leur soient profitables du point de vue financier, économique, etc. Voilà les retombées qui font que parfois la Commission apparaît comme l'intermédiaire qui finalement coordonne, mais on peut dire que les pays membres en dehors de l'aide bilatérale sont aussi derrière cette aide gérée par l'Union européenne.
Voilà, professeur, on va revenir à vous le temps de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre au 081-890-63-15 ou encore nous déposer les commentaires sur notre page Facebook.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de nous rejoindre, vous qui avez une lecture objective et un regard de passionné sur cette thématique. Bénédiction, vous êtes à Bukavu et Sylvain à Kinshasa. Bonjour Bénédiction.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Voilà, vous avez suivi notre invité tout à l'heure par rapport à cette thématique où nous parlons de ce rapport d'audit sur l'aide européenne à la RDC qui est estimé à près de 2 millions d'euros de 2003 à 2011, qui a été d'ailleurs présenté à Bruxelles le mardi dernier. Ce rapport qui conclut que moins de la moitié des programmes examinés ont atteint les résultats escomptés et leur durabilité ne sera pas assurée. Comment commentez-vous cette actualité?
Oui, merci Gilles, je vous remercie de la parole. C'est la première fois que je viens d'intervenir en direct à votre radio. Je remercie vraiment la radio Capi qui réunit nos 11 provinces de la République. En suivant notre invité, j'ai suivi le contraire de ce que je pensais. Moi, je pensais que les aides, notre gouvernement propose aux gens qui amènent les aides. Et puis, notre gouvernement planifie les secteurs déterminés dans lesquels les aides vont être orientées. Et puis, quand il y a présence de l'aide, le gouvernement oriente exactement l'aide par rapport au secteur bien planifié. Mais j'ai suivi un peu le contraire par rapport à ce que j'ai pensé et que notre invité vient de parler au studio.
Voilà, merci beaucoup Bénédiction. Là, nous rappelons que notre invité a évoqué le principe de la responsabilité mutuelle auquel a adhéré la RDC depuis 2005, qui fait que les bénéficiaires de l'aide et le donateur se mettent ensemble pour chercher au fait à planifier les choses et aussi à planifier les suivis à faire. Merci beaucoup Bénédiction d'avoir appelé et avoir sincèrement confirmé que vous avez su vraiment les contraires de ce que vous pensiez. Sylvain est à Kinshasa. Bonjour Sylvain.
Bonjour, et surtout bonjour à tous et aussi bon début de semaine. Hein.
Merci à vous également Sylvain. Comment commentez-vous cette actualité, la thématique que nous abordons ces jours?
Merci. Pour commencer, je voudrais d'emblée dire félicitations à l'invité qui a fait une brillante introduction. Et par rapport au sujet, je suis très bouleversé parce que tous les rapports à l'égard de la RDC, en termes de gestion, sont vraiment rouges et classent notre pays en bas de l'échelle. Lorsque l'Union européenne, que je respecte beaucoup parce que c'est parmi les grands bailleurs, même de la RDC, les bailleurs des fonds, je crois que la RDC, à travers son gouvernement, n'a pas du tout raison d'avancer ce que le porte-parole que j'ai suivi il y a quelques jours passés était en train de défendre. Ça, ce n'est pas signe de responsabilité. Lorsque l'Union européenne dispose de fonds vis-à-vis d'un pays, il y a tout un mécanisme. Et je pense que l'invité sur le plateau l'a souligné. Il travaille en collaboration avec le gouvernement de ces pays-là. Et je me pose la question, pourquoi seulement la RDC qui est visée, très mal visée, que d'autres pays? Donc ça, c'est une interrogation. Alors, je reviens par rapport à ces dons-là. Lorsque vous prenez, je prends un seul exemple seulement, le cas de la réforme de l'armée et de la police. L'Union européenne a financé, exemple, pour déterminer le nombre exact des policiers. Mais je peux, et je l'affirme que jusque-là, le nombre n'est pas maîtrisé par le gouvernement. À qui revient cette erreur-là? Là, je ne vois pas d'autres dimensions soulevées par exemple par l'invité, notamment la décentralisation et autres. Donc, ce régime, ce gouvernement, n'a pas du tout raison de dire qu'il est moins intéressé par rapport à l'intervention de gestion des fonds qui ont été alloués par l'Union européenne. Ça, c'est un signe de mauvaise foi de servir cette nation congolaise, et je demande tout simplement que la gestion, l'équipe de gestion soit révisée pour que ces bailleurs-là ne soient pas découragés. Aujourd'hui, le rapport est basé sur plusieurs faits, et notamment la conclusion a été fondée après une étude et des suivis qui ont été organisés tour à tour. Je crois qu'il y a eu des raisons qui ont été avancées. Les autorités doivent s'imprégner de cette réalité-là pour essayer de voir pourquoi ils ont chuté à l'échec et qu'est-ce qui a poussé à cela pour essayer de redresser ce comportement. Parce que toutefois, quand il s'agit des finances, vous le savez, avec l'UTIE qui avait exclu de son organisation la RDC, c'était le même motif de la médiation. Donc, la plupart des rapports à l'égard de la RDC vraiment sont terribles. Et nous pouvons attendre de ce gouvernement que la démission pire et simple, parce qu'il y a trop de fois, il y a eu déjà beaucoup.
Oui, donc nous attendons la démission pire et simple. Oui Sylvain, je crois qu'à un certain niveau, vous avez parlé d'un cas par exemple de l'effectif de l'armée, hein, qui au fait, selon vous, pour insuffisance que jusque là on a amorcé ce processus de maîtrise d'effectifs, où en est-on? Est-ce qu'on a atteint le résultat? Selon vous, vous l'avez remarqué de concret sur le terrain. Je crois qu'on va revenir sur ça avec notre invité Sylvain, Ben alors, je crois que parallèlement, il y a eu des concertations où on est revenu sur, disons, dans le cas du groupe thématique de la bonne gouvernance, de la gouvernance. On est revenu sur tous ces aspects. Et je crois que ça pourrait nous éclairer quand notre invité pourrait donner. Et disons, pour votre gouverne aussi, Sylvain, il faut noter que le rapport ne fait pas seulement des accusations, mais il fait aussi des recommandations, hein, pour permettre à ce que dans les jours à venir, les choses puissent s'améliorer. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé. Et Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Gaston.
Merci à vous aussi, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Gaston.
Merci. Et puis, je pense que ici, il s'agit d'un rapport publié au niveau international par rapport aux aides qu'une organisation, je pense l'Union européenne, alloue dans notre pays, en fait, d'exécuter ces projets. Mais avant d'enchaîner ma réflexion, je vais poser une petite question là à l'invité, mais une question en soi, de savoir pourquoi est-ce que ces derniers temps, l'Union européenne a tendance à ne plus associer notre gouvernement lorsqu'il veut exécuter ces projets sur notre territoire. Ça, c'est la question.
Voilà, merci beaucoup, Gaston. Comme c'est une question directe, on va directement poser la question à notre invité, puis on va revenir à vous. Professeur Samni. Oui, professeur, parce qu'il s'agit d'une question directe, si vous pouvez répondre rapidement.
La question,
hein.
Oui. Pourquoi l'Union européenne a tendance à ne plus associer notre gouvernement? Je viens de vous dire que depuis 2005, il y a eu une grande conférence qui a fini, qui s'est tenue par une déclaration qu'on appelle déclaration de Paris. La critique qui était déjà formulée à ce moment-là était que les pays bénéficiaires des aides n'avaient pas, en fait, bien géré les projets dont ils étaient responsables directs. Et à partir de ce moment-là, une des idées était finalement d'associer plusieurs partenaires. Vous avez l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Union européenne et même parfois les bailleurs bilatéraux à la gestion d'un ou de plusieurs projets sur place au Congo. C'est comme ça que de plus en plus, les donateurs ont commencé à prendre distance des bénéficiaires parce qu'ils estimaient que plusieurs projets qui étaient jadis gérés par eux-mêmes n'avaient pas donné des résultats escomptés. Mais pour le moment, comme je viens de vous dire, que nous avons une cellule au ministère des Finances, logée dans le bâtiment de DGI. C'est cette cellule-là qui coordonne les aides de l'Union européenne avec les autres ministères, qui réunit en fait les experts de plusieurs ministères et qui leur demande de déposer des projets qui peuvent être soumis à l'Union européenne. La cellule existe, c'est-à-dire qu'il y a quand même une coordination, il y a quand même une association. Mais là, nous associer directement à la gestion, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils estiment que nous avons toujours l'habitude de mal gérer les fonds. Ainsi, lorsqu'ils décident de financer tel ou tel projet, la première idée qui arrive en tête, c'est de faire venir les experts de l'extérieur et de prendre peut-être quelques collaborateurs sur le plan local. La grande difficulté que nous avons, nous, c'est de ne pas avoir les unités de suivi. Parce que dans la gestion des projets, il y a, en fait, l'étape principale, c'est le suivi et non pas l'évaluation. L'évaluation peut être exporte ou export ou même en cours, mais le suivi quotidien de ces projets, il n'y en a pas. Même cette cellule de coordination, elle se limite tout simplement, si vous voulez, à ramasser les propositions et à les déposer au niveau de l'Union européenne. Mais dès que c'est fait, il n'existe pas, si vous voulez, le rapport de terrain de la part des experts congolais dans tel ou tel ministère sur la gestion au quotidien des projets financés par l'Union européenne ou même par des autres cadres de coopération. Ça n'existe pas. Ça, c'est notre faiblesse, il faut l'avouer. Nous ne pouvons pas dire, bon, nous ne savons pas, nous ne sommes pas associés. Non, nous sommes plus ou moins associés dans la mesure où le travail se fait sur le terrain. Voilà.
Alors,
nous n'avons jamais eu le temps de descendre sur le terrain.
Pour faire l'évaluation. Voilà. Donc on va voir avec vous comment maintenant on doit améliorer cette implication pour permettre à ce que le résultat soit vraiment celui escompté. Gaston, vous avez suivi le professeur pour votre question tout à l'heure. Maintenant, on peut vous accorder encore la parole pour
votre commentaire.
Oui.
Ah oui. Et puis, je constate que non, bien que les stratégies ont été changés par ces étrangers-là, je constate qu'il n'y a pas toujours jusque-là les résultats escomptés et même réclamés. Mais moi, je pense que le problème, c'est au niveau des individus. D'abord, les gens qui conçoivent les projets. C'est qu'est-ce qui motive ces gens-là à concevoir les projets? Et vous verrez, dans la plupart des cas, ce sont les gens qui exécutent ces projets-là qui veulent que les résultats ne puissent pas, ou soit l'impact ne puisse pas être visible. Parce que nous voulons les changements. Hein. Lorsque vous nous dites, vous impliquez et que pendant des moments, vous ne pouvez pas voir les changements, c'est que tout ce monde-là qui est dans la chaîne est en quelque sorte incompétent. Et puis, j'allais dire une chose. Vous savez que non, il y a des
oui,
gènes...
rapidement, Gaston, parce que...
Oui, il y a des personnes qui sortent avec des idées pouvant changer ce problème. Mais ces gens-là ne sont pas, en quelque sorte, considérés parce qu'ils sont nouveaux. Moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai, en quelque sorte, je pouvais dire, une fondation qui se nomme chez les bons samaritains, donc chez le président. Nous concevons les projets que nous avons déjà soumis jusque-là à l'UNICEF, un projet de santé, ainsi qu'un projet agricole. Je pense que la fondation Mosée avait eu aussi un exemplaire. Mais essayons d'abord avec les... Parce que tout ce monde-là ont failli. Essayez d'abord avec...
Avec les ONG locales.
Ils peuvent avoir des dons. Ce sont des gens qui sont voilà. Mal intentionnés. Il faut éradiquer, changer tout ce monde-là, vous verrez que non,
il y aura... Voilà, comme l'a dit notre invité Gaston, merci beaucoup Gaston, comme l'a dit notre invité, il existe bel et bien une cellule de coordination des aides au niveau de ministère de Finances. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que fait concrètement cette cellule? Parce qu'elle existe, elle fonctionne et avec de moyens alloués pour son fonctionnement. Donc voilà, donc c'est autant de questions. Je crois que notre invité pourrait encore davantage nous éclairer là-dessus. Nous allons prendre Théodore. Avant de lire quelques messages des auditeurs, Théodore, vous êtes à Bukavu. Bonjour.
Ouais, bonjour.
Voilà, et il en vaut pour d'autres auditeurs qui vont intervenir. Et il faut être précis, concis et aussi rapidement pour laisser aussi aux autres le temps d'intervenir. Théodore, comment commentez-vous le sujet du jour?
Oui, bon, merci beaucoup. Je suis Toi Imire Théodore. Cette question intéresse trop parce que vous trouvez que souvent les gens ont l'habitude de proposer des projets qui n'ont pas des avantages, qui n'ont pas d'intérêt particulier, qui n'ont pas d'intérêt très précis pour la population. Par défaut, ils sont en train de... Bon, souvent, ils envoient des projets avec les intérêts cachés pour leurs propres intérêts. Parce que souvent aussi, on peut les financer après avoir mis leurs projets et ils se mettent à détourner les fonds après leur projet. Alors la question que je pourrais poser à notre invité est de savoir aussi quels sont d'ailleurs les types de projets qui sont de plus appuyés par les bailleurs étrangers, mais même quelles sont aussi les modalités, quelles sont encore les modalités ou les directives qui puissent aider aux élaborateurs des projets locaux ici chez nous au pays de pouvoir être admis lorsqu'ils envoient le projet. Parce que de plus souvent, bon, je pourrais aussi parler, pour être précis comme vous l'avez dit, pour donner le temps à d'autres invités qui me suivent, de demander aussi ceux-là qui demandent le projet, ceux-là qui soumettent des projets, d'être honnêtes. Parce que de plus souvent, on leur finance des projets et ils retournent le fonds, ils le font pour leur propre...
C'est ce qui donne, qui fait qu'aujourd'hui le pays a une mauvaise note. Merci beaucoup Théodore. Merci beaucoup Théodore, 081-890-63-15 pour votre participation en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci, il faut encore de votre fidélité à Radio Kapi et vous qui nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs. Djiku Djongra, Djiku Djongra depuis Rutshuru dit ceci: d'une part, le gouvernement est victime de cette calomnisation de l'Union Européenne parce que c'est Santé qui gère notre aide et pourtant notre gouvernement sera obligé de rembourser cette aide avec le même intérêt et cette disons le même intérêt. Santruyon Mawayimbu à Kananga, si le gouvernement n'est pas impliqué, donc il n'existe pas car les élections posent des problèmes, la justice est dépendante de la politique, bref c'est l'argent jeté par la fenêtre. Olivier Djuma de Likasi au Katanga, on nous dit que cette aide compte depuis 2003-2011. En effet, si le gouvernement n'est pas impliqué dans la mauvaise gestion, pourquoi les élections urbaines, municipales, locales et générales ne se sont pas organisées dès lors jusqu'à maintenant pour la réforme de la justice et la police? Le bilan est toujours négatif, les magistrats et les commissaires de la police amendent les gens forfaitairement, argent qui n'entre pas dans les trésors publics, plutôt dans leur poche. Tout ça pourquoi? Liberto Doudou Kaviswa de Walikale dit le gouvernement congolais veut se dérober de ses responsabilités, notamment toutes les aides octroyées par tous les bailleurs, qu'ils soient européens ou américains ou d'ailleurs, doivent être canalisées et orientées vers des besoins réels et nécessités. Voilà, une commission gouvernementale de suivi et évaluation suivant les objectifs définis dans les projets. Voilà, il y a tant d'autres. Nous prenons d'abord Emmanuel qui est à Kisangani. Emmanuel, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Voilà. Ah, Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur?
Je suis très bien.
Bah alors, il faut l'éteindre carrément. Il faut l'éteindre carrément. Alors, s'il faut l'éteindre, parce que ça fait déjà un mauvais retour, on ne peut pas vous retenir. En attendant que les choses s'arrangent chez vous, alors on prend Franck, qui est à Vienne, en Autriche. Franck, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Gère, bonjour à l'invité, bonjour à tous les autres compatriotes avec qui on s'échange.
Voilà, Franck, vous avez la parole.
Et merci beaucoup. Avant d'intervenir, je voulais d'abord souhaiter joyeux anniversaire à un membre de votre équipe. On ne doit pas peut-être, pour des raisons personnelles, citer le nom.
Merci.
Par rapport
au
thème du jour.
Ben, je crois que vous faites allusion à Titi.
Oui, ça va, merci.
Merci beaucoup. Alors, bon anniversaire à Titi, qui est en congé. Merci. Alors, Franck, allez-y.
Oui, merci beaucoup. J'ai bien suivi avec intérêt les objections du professeur. Je suis tout à fait d'accord avec lui et aussi je partage un peu, en partie, ce que notre ministre avait objecté la semaine passée. Personnellement, je sais que ce sujet avait déjà été débattu en 2009, à l'époque où Claude Kianz a modéré Parole aux auditeurs. Mmh. Et en 2009, je me souviens, je lui avais dit ceci. Pour le projet au développement vers le tiers-monde, l'intention du départ est souvent bonne, ou les intentions des donateurs sont souvent bonnes, mais seulement c'est la procédure de la réalisation. Parfois, pour certains projets, on se rend compte que jusqu'à 70% du budget est déjà utilisé pour le paiement du personnel expatrié. Et à ce niveau-là, si pour un projet, on doit déjà dépenser plus de 45% seulement pour le personnel expatrié au taux du jour de leur pays et selon le SMIC de leur pays d'origine, en réalité, il n'y aura que des miettes pour les bénéficiaires. Ça, c'est un des aspects. Un autre aspect, nous devons aussi le reconnaître que chez nous, il y a, au-delà de tout ce que nous devons critiquer chez les autres comme piège de procédure, il y a aussi ce manque de bonne volonté et surtout de loyauté au niveau de la gestion financière. Et c'est parmi les grands maux qui rongent notre société congolaise. Il y a l'égoïsme, il y a le manque de discernement au niveau des finances et cela conduit parfois certains esprits de ne pas bien réaliser ce qui est destiné pour l'avenir de la nation ou de la collectivité. De trois, le prof l'a bien dit, celui qui donne, il cherche aussi à placer les siens pour être sûr que le projet sera bien réalisé. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que si c'est l'Union européenne qui finance, si c'est le Fonds monétaire international qui finance ou la Banque mondiale, ils cherchent aussi à placer leurs pions. Ça signifie d'une manière ou d'une autre, sans trop qu'on le sache, que le même qui vous finance, c'est créer des emplois pour leur personnel au nom de la misère des autres. Et je crois que la responsabilité nous revient aussi Parce que si on vous donne quelque chose, même si les 10% qui nous restent, la question c'est de savoir comment nous les gérons. Comment gérons-nous ce qui revient à notre responsabilité?
Oui, oui, Franck, Franck, quand vous poursuivez, que vous inspire alors cette recommandation de la Cour des comptes de l'Union européenne qui, au fait, hein, permettez-moi la tautologie, qui recommande en conséquence que les gestionnaires européens exploitent mieux la conditionnalité et le dialogue politique en posant à leurs partenaires congolais des conditions précises, appropriées, réalistes et datées sous peine de suspension ou d'interruption du financement des programmes concernés?
Là, je crois qu'on peut rester ici pendant autant de heures, ça dépendra des appréhensions, quoi. Je peux facilement éprouver ce qu'ils disent là, mais je crois qu'eux aussi doivent comprendre les priorités du lieu. Depuis que moi je suis ici, je suis aussi un peu associé dans certains projets. Je me rends compte que les Blancs, quand ils vous donnent, ils cherchent à vous imposer leur manière de raisonner, leur manière de faire, ce qui n'est pas toujours mauvais. Mais parfois, ils ne tiennent pas compte de certaines conditionnalités dans lesquelles nous sommes aussi soumis là-bas. Mmh. Donc je crois qu'on doit bien dialoguer. Les nôtres, ceux qui vont nous représenter, doivent être à mesure de leur faire voir aussi nos priorités. Et quand on n'arrive pas à bien dialoguer, alors ça serait seulement la logique de la main qui donne, qui passe à voir les derniers mots. La main qui donne détermine la manière de faire, détermine le schéma, vous impose le personnel, et pour un projet de 20 000 dollars, si on vous impose 4 personnes que vous devez prendre en charge pendant 6 mois, qu'est-ce qui vous reste? C'est un peu à ce niveau-là que je me vois buter. Et c'est à ce niveau-là aussi que j'ai dit, j'épouse en partie l'objection de notre ministre, pas dans la totalité, mais en partie. Évidemment, comme le prof l'a dit, les responsabilités doivent être partagées. Donc, on ne doit pas toujours attendre que les concepts du développement de notre pays proviennent, tous être pensés des autres. Mais nous devons nous dire, si les autres nous donnent 10 000 dollars, comment nous pouvons gérer les 10 000 dollars avec loyauté et responsabilité? Moi, je m'attelle plus à ce niveau-là.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé à Vienne, en Autriche. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, vous avez la parole, Arsène.
Ok, d'abord, je commencerai à féliciter Franck de Vienne, parce que pour une fois, maintenant, on a presque les mêmes idées. Parce que la fois passée, il y a 3 ans passés, il m'avait contredit quand j'ai dit presque la même parole que cet auditeur. Alors, moi je dirais ceci, le gouvernement congolais ne peut pas s'échapper. Ne peut pas s'échapper parce que le Congo nous appartient et le gouvernement a une part de responsabilité de contrôler tout ce qui doit se passer ici chez nous. En second lieu, ceux qui nous donnent de l'aide, ils doivent savoir que l'aide qu'ils nous donnent doit être bien définie, que ce soit de l'aide, que ça ne soit pas une dribble pour que demain nos enfants puissent payer des dettes qui n'ont servi à rien.
Arsène, le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, a même donné cette position qui a demandé aux partenaires au développement de la RDC à une redéfinition de la manière dont les partenariats stratégiques et préférentiels doivent se concevoir et se matérialiser. Donc je crois que vous rejoignez également la position du gouvernement.
Ok, mais ce n'est pas maintenant, c'est au départ que le gouvernement devait faire ça. Mais ok, si aujourd'hui le gouvernement doit prendre cette position, ok. Mais moi je vais vous donner un exemple. J'ai appris que le gouvernement ou l'Europe allait nous financer quelques 150 millions pour la construction d'une route. Voilà ce qui va se passer. D'abord, ils vont choisir un partenaire que eux-mêmes vont trouver que c'est nécessaire pour construire cette route-là. Et de l'autre côté, le gouvernement qui doit assurer la mission de contrôle va atteindre un certain niveau qui ne saura même pas contrôler la construction de cette route. Alors, aujourd'hui, ce que je peux proposer, que nous essayons nous-mêmes, Congolais, d'avoir une mainmise et un œil vigilant sur ce qu'on nous donne comme projet. Voilà ce que j'avais à dire.
Voilà, il ne faut pas oublier non plus, Arsène, qu'il y a une équipe quand même qui coordonne les passations de marché. Hein. Je crois que tout ne se passe plus comme avant. Je crois que c'est tout passe par les passations de marché. On souscrit et puis finalement, il y a ceux qui gagnent. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on sent quand même qu'il y a quand même des avancées très significatives. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé les Kikwit. Nous nous rendons tout de suite à Kisangani pour retrouver Marcel. Marcel, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, dommage, Marcel n'est plus en ligne. Alors, professeur Samri, vous êtes avec nous. Vous avez suivi les uns les autres. Alors, comment orientez-vous leurs préoccupations?
Bien, merci de plusieurs interventions. Je ne sais pas par où il faut commencer. D'abord, la question de Théodore. Quelles sont les modalités pour que les projets soient acceptés? Si je comprends bien, il est dans la société civile et donc il a une organisation non gouvernementale. À ce sujet, il y a eu déjà des discussions au niveau de l'Union européenne et plusieurs organisations non gouvernementales ont en fait soulevé ce cas pour dire que qu'elles avaient besoin de participer à la base, à la conception et à la gestion des projets. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un lobby très important au niveau de l'Union européenne. Les organisations non gouvernementales occidentales souhaitent finalement gérer directement les aides de l'Union européenne en Afrique. Ainsi, lorsque une ONG congolaise, par exemple, présente un projet et cherche le financement, immédiatement, on l'oriente vers les organisations non gouvernementales occidentales, européennes. En fait, c'est pour dire que là, de nouveau aussi, il y a une relation hiérarchisée, toujours avec l'idée que même si ce sont des ONG locales, la gestion n'est pas assurée, sauf peut-être pour les petits projets qui nécessitent un financement modeste. Mais pour les grands projets, il y a des organisations non gouvernementales, occidentales, européennes, qui finalement ont aussi la même mise sur les projets en Afrique, donc au Congo aussi. Il y a une question qui a été posée en ce qui concerne la conditionnalité, le dialogue politique. De nouveau, ce sont des concepts qui datent des années 70, hein, parce que ce sont des recommandations de l'Union européenne, donc de la Cour des comptes, ce sont des concepts qui datent des années 90 et qui reviennent encore. Le dialogue politique a été plusieurs fois souhaité, c'était en fait pour dire mettons-nous ensemble, voyons ce que nous pouvons faire. Mais ce dialogue politique se limite à des rencontres pour la signature des conventions de coopération et déterminer les montants, et ça se limite là. Au niveau maintenant de la pratique, c'est-à-dire de l'exécution des projets sur le terrain, le dialogue politique disparaît. Mais conditionnalité, oui, ça a été discuté, mais le Congo se trouve dans la catégorie des pays dits les pays fragiles, c'est-à-dire les pays en faillite, les pays qui vivent dans la période post-conflit. Là a été posé comme question, faut-il en fait soumettre ces pays très fragiles à des conditionnalités de l'aide au même titre que les pays qui en fait présentent, si vous voulez, un niveau économique quand même viable. Et donc, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils se sont dit, oui, il faut voir, mais ce sont des pays fragiles, nous ne devons pas les soumettre vraiment à des conditions très dures pour accéder à l'aide. Mais toujours est-il que des conditions sont posées d'une manière indirecte dans la mesure où on n'associe pas sur le terrain les experts congolais, les ministères à la gestion directe. Donc ça, c'est déjà une manière de dire que vous détournez. Parce que dans ce rapport que vous avez, d'ailleurs, vous l'avez, il relève plusieurs choses. Le pays est classé 187e sur 187 dans le rapport du PNUD. L'espérance de vie, 48%. Production alimentaire, nulle. Insécurité alimentaire, 70%. Malnutrition, 14% d'enfants. Ils disent tout cela. Ils disent, c'est dit à la corruption, c'est dit donc au manque de leadership, dit à l'incapacité de l'État à rendre des services de base, etc., etc. Donc, on constate finalement que le pays ne dispose pas d'un leadership. Le pays, donc, n'a pas, si vous voulez, les possibilités, finalement, de bien gouverner. D'où le concept de appui aux institutions, appui à la gouvernance qui continue jusqu'à ce jour. Ils le disent très bien. Donc, nous pouvons, en fait, si vous voulez, dire que conditionnalité, oui, indirectement, c'est fait. Donc, il pose une condition, ne donnons pas accès au gouvernement.
Voilà, nous avons également des petits soucis avec la ligne téléphonique de notre invité. On va peut-être revenir. Professeur, vous êtes toujours là, hein? Oui, professeur, vous êtes avec nous? Voilà, Voilà, là, carrément, il faut changer vraiment de position ou peut-être, parce qu'on a un petit souci avec notre ligne téléphonique avec vous. Le temps de rappeler à nos auditeurs que vous qui avez une lecture objective et un regard dépassionné sur cette thématique, hein, nous parlons de ce rapport d'audit sur l'aide européenne à la RDC, estimé à près de 2 millions d'euros de 2003 à 2011. Et ce rapport a été présenté à Bruxelles le mardi dernier et il conclut que moins de la moitié des programmes examinés ont atteint les résultats escomptés et leur durabilité ne sera pas assurée. Alors comment commentez-vous cette actualité? 081 890 63 15.
Les questions sur votre santé et celle de vos proches vous concernent. Retrouvez tous les jours les conseils de Radio Okapi à 8h56 et à 14h40, heure de Kinshasa, pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. La chronique santé, c'est sur Radio Okapi avec UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous revenons dans ce studio avec Marcel qui est à Kisangani. Marcel, bonjour. Marcel, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, Marcel, vous êtes avec nous, vous êtes en direct. Voilà, le temps de prendre Amissi qui est à Kindu. Amissi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Amissi, vous avez suivi les uns les autres et surtout les auditeurs qui vous ont précédé. Comment commentez-vous cette actualité?
Ok, monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord dire une chose. Je n'arrive pas à comprendre. Quand le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, dit que voilà, la responsabilité est dans le camp de l'Union européenne. Je ne vois pas pourquoi l'Union européenne donne. Comment cette responsabilité doit revenir encore à l'Union européenne pendant que c'est elle qui donne? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici chez nous? Je prends l'exemple des élections de 2006. Moi, j'étais opérateur de saisie. Vous savez que, pour votre information, l'Union européenne avait décaissé un montant pour financer les élections. Mais pour votre information, une partie des agents qui étaient destinés, censés être payés par la commission électorale n'était pas payé jusqu'à présent. Voilà la mauvaise gestion. L'Union européenne décaisse un montant, mais on ne sait pas gérer ça. Il y a eu détournement. Je vous donne un autre exemple pour dire que voilà, c'est que les porte-parole du gouvernement a dû n'est pas fondé. Je me pose la question de savoir. Il y a toujours un protocole d'accord. On signe pour la gestion d'une aide, d'un financement. Maintenant, l'invité est au plateau là-bas, qui nous dit la part de responsabilité du gouvernement. Quand il signe des accords, vous allez voir, oh, le ministre des portefeuilles a signé des accords avec le gouvernement ou le gouvernement français pour telle aide. Voilà. Je pense que dans ces protocoles d'accord, tout est bien défini. Et chaque cas a sa part de responsabilité. Alors, quand on finance un pays, on nous finance quelque chose, et puis, il n'y a pas un suivi. L'Union européenne a pleinement raison de dire que, en tout cas, oui, le gouvernement congolais qui est responsable de non-réalisation de ce qui finance.
Oui, Amissi, pour vous aider, pour votre gouverne, de son côté, donc, le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC a même rassuré les gouvernements congolais en indiquant que la Cour des comptes de l'Union européenne n'accuse pas le gouvernement de mauvaise gestion de l'aide destinée à la RDC. Selon lui, le problème résulte plutôt de l'exécution de ces programmes par l'Union européenne.
Et si j'ajoute encore, monsieur le journaliste, j'aimerais dire ceci. Vous voyez, quand vous êtes responsable d'une maison, quand on finance quelque chose dans votre maison, et c'est vous le papa de cette maison-là, rien ne peut pas vous échapper. Tout doit être suivi par vous. Bien sûr qu'un autre papa a rationné à votre femme pour la cuisine. Vous, comme responsable de la maison, vous devrez savoir qu'est-ce qu'on a rationné et qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, le suivi doit être là-bas. C'est ce qui caractérise l'irresponsabilité même. Et oui. C'est chaque jour qu'on parle toujours de la mauvaise gouvernance dans notre pays.
Donc, vous proposez qu'il y ait vraiment des suivis. Merci beaucoup, Amissi. On va terminer aussi avec vous, hein, cette série des auditeurs, avec vous, Maurice. Vous êtes à Kinshasa. Maurice, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles.
Voilà, vous avez la parole, Maurice.
Bon, je commence par relever un constat. Vous allez comprendre que cette émission a commencé jusqu'à bientôt qui finit déjà. il n'y a pas vraiment une... l'opinion n'a pas été bien fixée sur les incohérences que suscitent ces rapports de l'audit de l'Union européenne. C'est-à-dire, à mon avis, j'aurais souhaité que vous invitiez quelqu'un, un fonctionnaire de l'Union européenne, qui aurait participé dans ces travaux-là de l'audit.
Voilà, Maurice, par rapport à l'esprit et la lettre de cahier des charges de cette émission, on ne peut pas avoir deux sons des cloches, parce que, en fait, l'Union européenne est impliquée dans ces débats, et aussi les gouvernements congolais. Donc ça fait déjà deux sons des cloches, et c'est pourquoi nous avons choisi prendre un expert, un neutre, qui pourrait éclairer, en fait, épouser soit les opinions des uns, ou soit les opinions des autres, pour nous permettre de nous faire au moins une idée d'une manière objectif. Parce que c'est vrai, le gouvernement tire les draps de son côté, l'Union européenne ne veut pas reconnaître la responsabilité, voilà. Mais au moins en réalité, sous le plan scientifique, vous avez suivi les professeurs qui a évoqué, qui a même dit qu'il y a une cellule qui existe au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous évoluons avec le principe de la responsabilité mutuelle. C'est-à-dire, les partenaires, les bénéficiaires de l'aide et ceux et les donateurs, ils se retrouvent ensemble, ils discutent ensemble pour l'exécution de ces projets. Donc je crois qu'à ce niveau, il n'y a plus de débat, hein, Maurice.
Oui, donc moi j'estime que l'Union européenne... comme vous le savez, c'est une organisation vraiment très crédible, en publiant ces rapports. Moi, je ne pense pas qu'il serait vraiment quelque part très responsable à de leur niveau, à responsabiliser, par exemple, les autorités congolaises à la gestion pour laquelle ils ne sont pas impliqués. Alors, quant à la réaction du gouvernement congolais, vous savez, comme vous le savez, comme moi aussi, que nous avions toujours suivi des déclarations. À chaque fois qu'il y a un tel rapport qu'on publie, le gouvernement congolais a semblé toujours se défendre, à tort comme à raison. Hein. Nous avons été suspendus par FMI jusqu'à aujourd'hui. C'est la nébuleuse. C'est vraiment, il n'y a rien qui a été fait. Alors, on a, il n'y a pas longtemps, été suspendu par ITA. Tout ça. Donc, c'est pour dire que moi, j'aurais souhaité que l'Union européenne nous dise à quel niveau la part des responsabilités de gouvernement congolais se situe. Comme ça, on aurait quand même aidé les auditeurs que nous sommes et les intervenants à bien vraiment déceler vraiment la part de responsabilité de chaque partie.
Merci beaucoup, Maurice. On revient directement à notre invité, professeur Samri Blaise. Vous avez suivi l'intervention et surtout la toute dernière de Maurice, hein, qui appelait de Kinshasa.
Oui, j'ai bien suivi.
Voilà, comment réagissez-vous?
Bien, il parle vraiment de la crédibilité de l'Union européenne. Oui, c'est une organisation, si vous voulez, régionale. Mais le rapport n'est pas établi par la Commission. Le rapport est établi par la Cour des comptes qui est située à Luxembourg et qui est, en fait, si vous voulez, une institution très crédible et qui, en fait, contrôle aussi la gestion interne de la Commission européenne. Sur ce, donc, il faut distinguer le travail fait par la Commission et le travail fait par la Cour des comptes. Au sein de la Commission, il y a le FED, le Fonds européen de développement. Voilà le nez du problème. Je vous ai dit qu'il y a tout un lobby qui tourne autour des projets, qui arrache les projets, surtout les grands projets, et on sait très bien qu'il existe très bien ce qu'on appelle des aides fantômes. Les aides fantômes ou les aides gonflées. Et dans ce niveau ici, on ne peut pas déduire complètement le fait pour dire le fait travaille honnêtement très bien dans tous les pays. Non, il y a toujours des critiques. En ce qui concerne la responsabilité du gouvernement congolais, on le dit très bien qu'il y a absence de leadership. Il y a la corruption. Il y a la capacité de l'État à rendre des services de base. Et moi, je résume cela en disant, l'aide d'une manière générale, des douanes, les gouvernants, de leur responsabilité. C'est comme s'ils se disent, nous avons l'aide, donc nous ignorons finalement ce que nous devons faire comme responsables pour assurer finalement le succès de ces aides-là. Donc, on prend l'aide comme si c'était seulement une obligation de ceux qui aident. Donc, ça devient un devoir des autres, ils doivent nous aider. Dans ces conditions, si vous voulez, la réaction du porte-parole du gouvernement, c'est comme s'il se disait, nous ne sommes pas responsables, les autres doivent, ils nous aident, mais ils ne nous aident pas suffisamment, parce que nous ne touchons pas à leur argent, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle les aides budgétaires.
Oui, professeur.
Les aides budgétaires qui représentent 50% depuis 2001 jusqu'à ce jour, les aides budgétaires qui sont accordées au Congo, aides budgétaires, c'est-à-dire quand même, ce sont des aides consistantes qui viennent compléter le budget de l'État congolais en dehors des aides programmes.
Voilà, mais oui, professeur, mais on sait tout de même qu'il existe le programme d'action transitoire, le PAT, dans le domaine de la santé, qui est géré totalement par l'Union européenne, mais aussi le neuvième fonds que vous évoquez là, le fonds européen du développement, qui est confié théoriquement voilà, à l'unité nationale de coordination, pour ne reprendre que les paroles de porte-parole, mais dont les fonds étaient dans la réalité gérés sur base des procédures établies unilatéralement par l'Union européenne jusqu'en 2009.
Mais n'oubliez pas que il y a une phase qui finalement a été supportée par l'Union européenne sans tenir compte, si vous voulez, de la participation directe du gouvernement, parce qu'on s'imaginait qu'il n'y avait pas des institutions établies, il y avait encore un processus de sécurisation, il y avait, si vous voulez, des institutions non crédibles qui n'étaient pas ici des élections. Et pendant cette période, aussi bien au niveau de l'Union européenne qu'au niveau des autres bailleurs de fonds, ils ont accordé des aides en disant « Nous vous donnons des aides sans que vous nous rendiez, que vous puissiez en fait nous demander les comptes pour dire comment est-ce que c'est exécuté. » Parce que pour eux, ils se sont dit « Nous venons dans un pays fragile, nous prenons en main ce qu'ils font sans finalement avoir leur opinion, sans avoir l'opinion donc des gouvernants. » Voilà un peu ce qui s'était passé pendant cette période.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que vous êtes professeur des relations économiques internationales dans plusieurs instituts et universités de la RDC. Une fois encore, merci d'avoir accepté de réfléchir ensemble avec nous sur cette thématique et à la prochaine.
Merci beaucoup, je vous remercie. Le montant, c'est 1,868 milliard d'euros.
Merci beaucoup, mon professeur.
Ok, merci beaucoup. Merci bien.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Voilà, nous disons merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission. Nadine Foula et Pierre Lamegi l'ont réalisé et J.R. Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. À Kinshasa, les travaux des concertations nationales se sont clôturés samedi dernier après la mise en commun des rapports de groupes thématiques. Parmi les recommandations formulées par les participants figure notamment la gestion consensuelle de la chose publique, autrement dit la participation de la minorité dans la gestion de la République. Comment commentez-vous cette actualité? Donc c'est un sujet qui sera débattu demain dans cette émission Parole aux auditeurs. Prenez déjà rendez-vous avec nous. Déposez vos commentaires sur notre page Facebook. À très bientôt.